Donc, je continue cette série sur l'évangile de Jean. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est le chapitre 7. Donc, Jean, chapitre 7, je prends au verset 1, dans la version du semeur. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Donc, jusque-là, il y a un ministère en Galilée qui a duré un certain temps. Il voulait en effet éviter la Judée, où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que, là aussi, tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voit. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi, il me déteste, parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Vous donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais secrètement, sans se montrer. Or, pendant la fête, les autorités juives le cherchaient et demandaient « Où est-il donc ?» Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient « C'est quelqu'un de bien ?»« Pas du tout !» répondaient les autres. « Il trompe tout le monde !» Mais comme ils avaient tous peur des autorités juives, personne n'osait parler librement de lui. La moitié de la semaine de fête était déjà passée quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandaient « Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié ?» Jésus leur répondit « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a donné la loi, et pourtant, aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Tu as un démon en toi, lui cria la foule. Qui est-ce qui veut te tuer ? Jésus reprit la parole et leur dit, « Il a suffi que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez. Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse, mais des patriarches. Or cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un le jour du sabbat. Eh bien, si on circoncie un garçon le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat ? Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » En le voyant, quelques habitants de Jérusalem s'étonnaient, « N'est-ce pas celui qu'ils veulent faire mourir ? Or le voilà qui parle librement en public et personne ne lui dit rien. Est-ce que, par hasard, nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Christ ? Pourtant, lui, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Alors Jésus intervint d'une voix forte, et on l'entendit dans toute la cour du temple. « Vraiment, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Sachez-le, je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est celui qui est véridique qui m'a envoyé. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Alors plusieurs essayèrent de l'arrêter et pourtant personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Cependant, beaucoup de gens du peuple crurent en lui. « Quand le Christ viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux que n'en a déjà fait cet homme ?» Ce qui se murmurait ainsi dans la foule au sujet de Jésus parvint aux oreilles des pharisiens. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent les gardes du temple pour procéder à son arrestation. Jésus déclara, « Je suis encore pour un peu de temps parmi vous. Ensuite, je retournerai auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Sur quoi ses auditeurs se demandèrent entre eux, « Où va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas ? Aurait-il l'intention de se rendre chez les Juifs dispersés parmi les non-Juifs ? Voudrait-il peut-être même apporter son enseignement aux non-Juifs ? Que peut-il bien vouloir dire quand il déclare « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez aller là où je serai ?» Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. » D'autres affirmaient « C'est le Christ. » Mais objectaient certains « Le Christ pourrait-il venir de la Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu ? » Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. »« Quoi ?» répliquèrent les pharisiens. « Vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre ? Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui ? Il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. » Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui, précédemment, était venu trouver Jésus, leur dit « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal ? » Es-tu toi aussi de la Galilée ? Lui répondirent-ils. Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. Je ne sais pas comment vous percevez l'ambiance de ce chapitre. C'est chaud, hein ? Alors ce récit a pour toile de fond la fête des cabanes, Soukhot en hébreu. C'était l'une des trois grandes fêtes que les Israélites devaient observer selon le commandement de l'Éternel. C'était initialement la fête de la récolte, notamment la récolte des raisins et des olives, donc en septembre, c'est pas au mois de juin ou de juillet. Hein. Ce n'est que plus tard, après l'entrée du peuple en Canaan, que Moïse inclura dans cette fête la commémoration des 40 années passées par le peuple dans le désert sous des tentes. On trouve ça en Lévitique 23. Les Israélites se faisaient des cabanes de branchages feuillus et y habitaient pendant les 8 jours que dure la fête. Mais la tradition rabbinique ultérieure en a fait aussi la fête de l'eau et de la lumière. Voici ce que l'on trouve à ce sujet dans un livre qui s'appelle « Le monde où vivait Jésus », un livre qui est édité sous la direction d'Hugues Cousin. Je cite ce livre. La joie de la maison du puisage a laissé un souvenir impérissable. On dansait toute la nuit, jusqu'à ce qu'on aille chercher de l'eau à Siloé. Siloé, il y avait un réservoir d'eau, hein, à Jérusalem. Flûtes et instruments de musique divers étaient de la partie. La fête de l'eau était aussi une fête de la lumière. Les feux qui étaient allumés au sommet de chandeliers d'or de 50 coudées de hauteur, ça fait quand même 2,25 m, dans le parvis des femmes, illuminait toute la ville. Il y avait donc des grands chandeliers qui étaient illuminés dans le parvis des femmes du temple, hein, et qui illuminaient le dernier jour de la fête toute la ville. On dansait avec des torches allumées que l'on rattrapait au vol. Ils jonglaient, quoi. Hein. Le rite de l'eau est en lien avec l'attente des premières pluies pour la venue desquelles on allait bientôt commencer à prier. Mais l'eau était aussi le symbole de l'Esprit-Saint. Pourquoi appelait-on cette cérémonie la joie de la maison du puisage ? Question posée par le rabbin qui a écrit ça. car de là il puisait l'Esprit Saint. C'est la réponse. On ne s'étonnera pas, dans ce contexte de la fête des tentes ou des cabanes, de voir Jésus se présenter à la fois comme celui qui donne l'eau vive, l'Esprit Saint, en Jean 7, versets 37 à 39, hein, et comme la lumière du monde, ça c'est le chapitre suivant, le chapitre 8 qu'on verra ensemble. Fin de citation. Alors, quels sont les protagonistes de ce récit de Jean, de ce chapitre 7 ? Vous avez Jésus, vous avez ses frères, les Juifs, entre guillemets, et la foule. Alors le récit s'ouvre sur un épisode de la relation entre Jésus et ses frères. Ceci lui conseille de se rendre à Jérusalem pour la fête des cabanes afin de se faire connaître. En effet, selon eux, si un prophète qui de surcroît accomplit des miracles veut se faire connaître, ben c'est naturellement à Jérusalem, la capitale, qu'il faut aller. Jean dénonce, dans ce qu'il a dit, ce qu'il y a derrière ce conseil, c'est l'incrédulité. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Plus tard, deux au moins des frères de Jésus croiront en lui, et leurs écrits figurent dans nos Bibles. Hein, c'est Jacques et Jude. Alors Jésus refuse, initialement, de suivre le conseil de ses frères, en raison du danger qu'il y a pour lui de se manifester publiquement dans cette ville du fait de l'opposition des Juifs. Ce terme qu'utilise Jean, les Juifs, j'en ai déjà parlé, mais il peut nous surprendre dans un pays où tout le monde par définition est juif. Hein. On voit tout au long de son récit que ce terme ne désigne pas toute la population juive de l'époque de Jésus, mais seulement les autorités religieuses qui ne cesseront de s'opposer à lui. Alors Jésus donne la raison de son refus initial de suivre le conseil de ses frères au verset 7. « Le monde n'a aucune raison de vous haïr, mais moi il me déteste, parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. » Le monde, dans la bouche de Jésus, c'est tout ce système qui a tourné le dos à son Créateur, caractérisé par l'incrédulité, le péché, la haine. Ses frères eux-mêmes, à ce moment-là, tout du moins, font partie de ce monde. Notez pourquoi le monde déteste Jésus, parce que Jésus témoigne que ses actes sont mauvais. Il l'avait fait par exemple et de façon spectaculaire, à peu près un an plus tôt, à Jérusalem, en chassant les marchands se livrant à leur commerce dans le temple. Mais il en est de même pour nous. Tant que nous ne dénonçons pas les actes mauvais du monde, le monde nous laissera à peu près tranquille. Mais si on se met en travers de son idéologie, par exemple, pour prendre un exemple, il y en a bien d'autres, hein, la loi sur le mariage pour tous, alors là, on rencontre son opposition, son mépris, voire même sa haine. Finalement, Jésus se rend à la fête quand même, quelques jours après le départ de ses frères. Est-ce que c'est là un signe d'inconstance de sa part? Certainement pas. Quand on lit tout ce que Jean rapporte de sa dépendance absolue du Père. Quand le Père lui en a donné le signal, alors le moment était venu pour lui de se rendre à la fête, malgré les risques encourus. Il y a là aussi un enseignement pour nous, je pense. Avons-nous toujours la sagesse d'attendre le feu vert du Père pour nos décisions importantes ? Jésus arrive donc à Jérusalem. Mais en quelque sorte incognito. Tout le monde se demande s'il va venir à la fête et le cherche. Les conversations vont bon train à son sujet. Entre les deux opinions extrêmes, c'est un homme de bien ? Non, mais il trompe tout le monde. Autrement dit, c'est un imposteur. À la moitié de la fête, Jésus sort de sa réserve et se met à enseigner publiquement dans le temple. Là, c'est l'étonnement parmi les Juifs, c'est-à-dire les spécialistes de la loi, qui lui était hostile. Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié ? Luc nous rapporte dans son évangile que Jésus avait en quelque sorte faussé compagnie à ses parents alors qu'il n'avait que 12 ans pour s'entretenir dans le temple avec les spécialistes de la loi. Et ce passage nous dit que ses parents le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Il avait 12 ans. Alors Jésus se défend. Il justifie l'authenticité de son enseignement en se réclamant de l'autorité du Père qui l'a envoyé, et que son enseignement lui vient directement de lui. Et il nous donne au passage deux critères discriminants vis-à-vis des enseignements que nous pouvons recevoir. Le premier est au verset 17. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. En d'autres termes, vous aimeriez avoir du discernement quant au discours d'un prédicateur. Il vous sera donné si vous êtes a priori décidé à faire la volonté de Dieu. Il donne un deuxième critère au verset suivant, verset 18. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai, il n'y a rien de faux en lui. Bien sûr, Jésus applique ce critère à lui-même en affirmant que c'est le Père qui l'a envoyé. Mais on peut par extension l'appliquer à n'importe quel prédicateur de la parole de Dieu. Posez-vous simplement la question. Cherche-t-il à honorer Dieu ou cherche-t-il sa propre gloire? Ensuite, Jésus passe à l'offensive. Il contre-attaque ceux qui mettent en doute son enseignement et sa personne. Il leur dit « Aucun d'entre vous ne met en doute la loi de Moïse et pourtant, aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. » Une telle parole, vous imaginez, dans ce milieu juif, est une véritable bombe. Là, il met le doigt sans ménagement sur l'hypocrisie des chefs religieux. Et il prend pour exemple leur désir de le faire mourir parce que selon eux, il a violé le sabbat lorsqu'il a guéri cet homme impotent au réservoir de Bethesda. Jean nous a raconté cette histoire au chapitre 5, vous en souvenez probablement. Je résume le raisonnement de Jésus, qui est un peu complexe, parce que moi j'ai trouvé ça un peu difficile. En gros, quand la date de la circoncision d'un petit garçon juif tombait un jour de sabbat, parce qu'il devait être impérativement circoncis au huitième jour de sa naissance, les Juifs admettaient sans problème qu'on pouvait en quelque sorte violer le repos sabbatique pour faire l'œuvre qui consistait à le circoncire. L'impératif de la circoncision l'emportait sur celui du repos sabbatique. Et on lui reproche d'avoir guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Je reconnais que pour nous, chrétiens du XXIe siècle, qui ne sommes pas vraiment versés dans les controverses rabbiniques, la relation entre circoncision et guérison complète n'est pas très évidente. Il semble que selon la conception rabbinique de l'époque, la circoncision complétait une imperfection naturelle pour entrer dans l'alliance de Dieu. Bon, c'est ce que j'ai trouvé dans les bouquins que j'ai regardés. Jésus fait le parallèle avec la guérison complète de cet homme. Mais je pense qu'on peut y voir tout simplement aussi la miséricorde. La miséricorde divine envers un homme paralysé depuis des années, et qui n'avait aucun moyen d'être guéri. Et la conclusion de Jésus dans cette controverse, c'est le verset 24. « Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » Alors de nouveau, la foule s'interroge. « N'est-ce pas celui qu'ils veulent faire mourir? Or le voilà qui parle librement et personne ne lui dit rien. Est-ce que par hasard nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Messie? Plusieurs veulent l'arrêter et pourtant personne ne met la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. L'hostilité grandit, mais le Père est en contrôle. Personne ne peut mettre la main sur son cher fils sans qu'il l'autorise. » Notez le verset 31. Cependant, c'est-à-dire malgré cette hostilité plus ou moins générale, beaucoup parmi la foule crurent en lui. On voit que quelle que soit l'hostilité du monde, l'Évangile fait malgré tout son œuvre de salut. Et c'est probablement pour cette raison que le Père a incité Jésus à se rendre tout de même à Jérusalem, malgré le danger. Ces rumeurs dans la foule décident finalement les chefs des prêtres et les pharisiens à envoyer la garde du temple pour l'arrêter. C'est le dernier jour de la fête, le plus solennel. Jésus se tient devant la foule et lance à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Jean commente ce verset 39 en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et comme vous savez, c'est ce qui va se passer à la Pentecôte. Il faut replacer cette proclamation de Jésus à pleine voix dans l'ambiance de cette fête. Je vous lis une note explicative qu'on trouve dans la Bible d'études du semeur. Chaque jour de la fête, le peuple se rendait en procession à la source de Siloé, où un prêtre remplissait une cruche qu'il apportait au temple et, étant monté à l'autel, en versait le contenu sur le sol. Le dernier jour de la fête, la quantité d'eau ainsi déversée était plus abondante que les jours précédents. Cette cérémonie visait à représenter la source d'eau qui devait jaillir du temple selon les prophéties de l'Ancien Testament. Plusieurs prophéties, en effet, parlent d'une source d'eau jaillissant du temple de Jérusalem. Par exemple, en Ézéchiel 47, le prophète Ézéchiel est conduit en vision par un homme qui lui fait visiter un temple en vision. Un temple, comme on dit, eschatologique, un temple du temps de la fin. Et il dit, « Et je vis de l'eau qui jaillissait de dessous le seuil du temple. » Et puis cette eau devient un petit ruisseau, et puis le petit ruisseau devient un véritable torrent. Et à la fin, il était même obligé de nager pour pouvoir arriver sur le bord. Donc une source qui commence tout petit et qui devient très abondante. On retrouve la même chose dans plusieurs passages. J'en cite juste un autre, Zacharie 14. « En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem. » Mais revenons à l'autre texte de Jean. Selon la ponctuation adoptée, mais je vous rappelle qu'il n'y avait pas de ponctuation dans le texte original grec, on peut comprendre que ces eaux vives vont jaillir du sein de Jésus ou de celui qui croit en lui. Alors, il peut y avoir discussion. La première compréhension est celle qui convient le mieux au contexte, justement en raison de cette allusion de Jésus à l'Écriture. Il a dit « comme le dit l'Écriture ». Jésus fait certainement allusion à cette source d'eau vive qui jaillira du temple. Or, le nouveau temple, c'est notre autre que lui-même. C'est donc bien de lui que jaillit cette eau vive dont il avait parlé à la Samaritaine rencontrée au puits de Sichar. Et cette eau vive qui jaillira de lui, c'est bien l'Esprit qui allait être déversé quelques mois plus tard sur les croyants le jour de la Pentecôte. Alors les paroles de Jésus font une telle impression sur les gardes venus pour l'arrêter que finalement, ils ne l'amènent pas aux autorités qui les ont envoyées en se justifiant de cette désobéissance par ces paroles. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Alors ça, j'ai pas de peine à l'imaginer. Et je pense vous non plus. Les pharisiens sont furieux. Quoi, vous aussi? Vous vous y êtes laissé prendre? Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui? Il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. Alors Nicodème, qui faisait partie du Sanhédrin, tente une timide objection. Notre loi permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal? On voit par ces paroles que la décision des autorités juives de condamner Jésus était bel et bien déjà prise. Il se fait remettre en place et traiter d'ignorant. Es-tu toi aussi de la Galilée? Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. En réalité, Jésus ne sortait pas de la Galilée, mais de Bethléem, la ville de David, l'ancêtre du Messie selon les Écritures. Mais quand on ne veut pas croire, on tombe immanquablement dans le piège du diable, qui est le père du mensonge, comme Jésus le dénoncera au chapitre 8 de cet évangile. Alors voilà pour l'ambiance de ce texte. La contradiction des pécheurs contre le Saint-Fils de Dieu. C'est terrible, hein? Seigneur notre Dieu, le fait de prêcher ta parole nous fait trembler pour ceux qui ont cette charge. Le cœur humain est tellement tortueux. On est tellement content quand on a bien prêché. Parce que le diable nous le dit. « Ah, oh, c'était bien ce que tu as dit. » Seigneur, vraiment, je te prie que tu nous aides à rechercher que ta gloire et que la tienne, mais aussi à bien sonder les Écritures, parce qu'elles en valent la peine. Et que ce sont elles qui nous font grandir, qui font que nous t'aimons toujours plus. Aide-nous à cela, Seigneur. Amen.